Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot. Le Celtic Glasgow en Écosse remporte le championnat de 2022 à l'issue de la 37e journée. Bel exploit pour leur entraîneur, l'Australien Ange Postecoglou. La finale de la Coupe d'Italie a été remportée par l'Inter Milan contre la Juve de Turin après prolongation 4-2. Ligue 1 en France avec la victoire de Nice hier contre Saint-Étienne 4-2. Marion Kazanov, RFI.
À l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Pourtant, rien n'était gagné d'avance. Les Niçois étaient menés 2-0 à la pause. Mais le jeune défenseur Jean-Clair Tobido a su remettre son équipe sur les bons rails à la mi-temps.
Je pense que la première mi-temps, il y avait encore les séquelles un petit peu de la finale. À la mi-temps, on s'est rentré un peu dedans. J'ai pris la parole pour remobiliser un petit peu mon équipe parce que une équipe qui prétend pouvoir jouer l'Europe et qui flanche sur le 18e de Ligue 1. C'était clairement pas normal. Et on est rentré sur le terrain en seconde période avec notre mentalité. Je pense que ça s'est vu. On sort de cette deuxième mi-temps à 4 buts et ça fait longtemps qu'on n'avait pas marqué autant.
Jean-Clair Todibo au micro de nos confrères Prime Vidéo.
Et dans l'autre match, Nantes s'est imposé contre Rennes 2-1. La Confédération européenne de foot réunie à Vienne depuis mardi et il est aussi question de réforme de la Ligue des champions, entre autres, comme nous l'explique Olivier Pron pour RFI.
L'instance fêtière du foot européen espère la mettre en place pour la saison 2024-2025. Une réforme de la reine des compétitions de clubs qui ne fait pas l'unanimité mais qui est censée allécher les diffuseurs, bien sûr, donc les payeurs. Avec 4 clubs et 100 matchs supplémentaires présentés il y a un an déjà, cette réforme radicale a été éclipsée un temps par l'éphémère projet de Super League soutenu par quelques formations huppées et mutines, les riches anglaises et espagnoles notamment. Cette réforme de la C1, comme on l'appelle, propose le passage de 32 à 36 clubs qualifiés et le remplacement des 8 poules de 4 actuelles par un mini-championnat au sein d'un tableau unique qui ferait que chaque équipe disputerait non plus 6 mais 10 rencontres minimum. Cela signifie qu'il y aurait 225 matchs au total au lieu de 125 aujourd'hui, des affiches prestigieuses, plus fréquentes et qui dit plus de matchs et d'affiches dit forcément plus de recettes. Un timing qui peut surprendre alors que l'on vient d'assister à des demi-finales époustouflantes dans cette Ligue des Champions avec une dramaturgie totalement liée à des rencontres couperet. Le projet d'Alexander Seferin, patron de l'UEFA, irait lui dans le sens d'une finale à 4 dans une même ville.
La lutte pour le titre en Angleterre au top, Manchester City s'est imposé contre Wolves hier 5-1 et prend 3 points d'avance sur Liverpool qui était passé provisoirement à la tête du classement mardi après avoir battu Aston Villa 2-1. En Centrafrique, la fédération de foot est à la recherche de nouveaux talents. Reportage de Rolf Esteve de Mialeux pour RFI.
Composé de 10 membres, ce comité est constitué d'anciens footballeurs, de cadres de la fédération et de journalistes sportifs basés en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique. Chacun aura pour mission de détecter des joueurs binationaux et de la diaspora et de les persuader de rejoindre les différentes catégories de l'équipe nationale centrafricaine. Ceci en vue de la CAN 2023 et même au-delà. Célestin Yanindi, président de la fédération.
L'objectif de ce comité de détection, c'est de travailler à identifier les joueurs centrafricains, quel que soit leur niveau, leur catégorie d'âge, et d'en informer la Fédération centrafricaine de football pour un suivi. Les meilleurs, ensuite, pourront être appelés dans les sélections nationales.
Alors que ce comité peut déjà se réjouir de la décision de l'attaquant du FC Metz, Louis Mafuta, de continuer avec les fauves du Bazubongi malgré ses récentes hésitations, il aura toutefois un très gros travail de persuasion à effectuer pour espérer enrôler de nouvelles recrues. Après avoir accepté de représenter la République centrafricaine en 2018, le milieu de l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia, a en effet claqué la porte de la sélection il y a quelques mois. C'est lui qui était en effet le capitaine à critiquer les mauvaises conditions dans lesquelles évoluent les joueurs. C'est donc un défi pour ce pays qui ne s'est jamais qualifié à une phase finale de la CAN.
Et puis l'affaire de racisme dans le foot, ça s'est passé le week-end dernier en Bulgarie concernant un joueur sénégalais, Christian Gomis. Reportage Martin Guèze pour RFI.
On joue les arrêts de jeu entre Plovdiv et l'Arda Kardjali. Le défenseur sénégalais Christian Gomis monte sur un dernier corner dans une ambiance électrique.
Ce défenseur, Petko Ganev, est en train de se pousser avec mon collègues. Moi, je suis intervenu pour calmer la chose un peu. Et il y a Petko Ganev qui vient vers moi et qui me dit, en gros, pars, sale singe. Sur le moment, j'ai cru être fou, quoi. Je lui ai demandé de répéter, il me l'a répété. L'arbitre, il est arrivé. Et je lui ai expliqué la situation. L'arbitre, il m'a dit que c'était rien du tout, qu'il fallait jouer.
Rien n'est signalé, selon les arbitres. Le Dakarois raconte alors son histoire sur les réseaux sociaux et reçoit un large soutien, notamment du capitaine de l'équipe nationale sénégalaise, Kalidou Koulibaly.
Franchement, c'est important. Ça m'a fait plaisir quand j'ai vu son tweet, parce que dans les moments comme ça, je trouve que c'est important d'en parler, qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus et qu'il faut qu'on se soutienne et pour avancer, pour plus que ça se reproduise.
Kalidou Koulibaly, lui aussi victime de racisme dans sa carrière en Italie. Christian Gomis, 23 ans, est formé au PSG et lui dégoûté et songe à changer de club.
Première fois qu'on me dise ça personnellement, oui, mais après, dans les tribunes, quoi, c'est pas la première fois que j'ai entendu. Directement comme ça, oui, c'est la première fois. Vis-à-vis d'un joueur, oui. Ça laisse à réfléchir. Surtout que je suis en fin de contrat cet été, quoi, ça me donne pas envie de rester ici, franchement.
Ici ou ailleurs, les instances du football restent sans solution miracle face à ces événements malheureusement récurrents.
On passe au cyclisme, le Giro d'Italia, la 5e étape remportée par Arnaud Démare, le Français. On l'écoute.
C'est clair que je suis super content de gagner comme ça sur le Giro, ma première de l'année. C'est une journée difficile. Finalement, le sprint s'est bien passé, c'était plutôt fluide pour moi, même si je pense que de l'extérieur, ça paraissait très houleux. Mais voilà, les mecs ont fait un super boulot, j'ai été patient pour lancer le sprint, donc je suis super content. Ouais.
Juan Pedro Lopez conserve le maillot rose de leader. Il possède 39 secondes d'avance sur Lennard Kamna. Et n'oubliez pas, le Giro, c'est sur la télé SBS tous les soirs. Un mot de tennis à Rome, les Masters 1000 et la bonne entrée pour Rafael Nadal contre John Isner, l'Américain. Eric Mamrut, RFI.
Le Majorquin n'a pas eu besoin de forcer son talent pour dominer le très pâteux géant américain John Isner. Succès 6-3, 6-1 pour Rafael Nadal qui affrontera demain en 8e de finale le fougueux canadien Denis Shapovalov. Beaucoup plus difficile aura été la qualification de Stefanos Tsitsipas. Le grec a dû sauver deux balles de match pour se défaire du bulgare Grigor Dimitrov. Victoire 6-3, 5-7, 7-6 pour le vainqueur du récent Masters 1000 de Monte Carlo. Ça passe encore pour le numéro 3 mondial Alexander Zverev. Défaite en revanche pour le petit argentin Diego Schwartzmann. Chez les dames, Hans Jaber poursuit sur sa lancée. La Tunisienne, lauréate du tournoi de Madrid dimanche, est en 8e de finale après avoir dominé l'Australienne Alia Tomljanovic 7-5-6-2. Autre qualifiée, Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, Maria Sakkari, Bianca Andreescu, la Canadienne, et Victoria Azarenka, la Biélorusse.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.